L'interview du jour.
Voilà, vous entendez la voix douce et mélodieuse d'Edouard Bergeon. Bonjour.
Bonjour.
Il est là, il me regarde, mais il est fatigué. 10 interviews. Alors moi, je suis la 11e.
C'est un bon. Une dizaine, et puis surtout, j'ai présenté le film dans une soixantaine de cinémas.
Et ce soir encore au cinéma Scala à Genève.
Bah, très heureux d'être là et de présenter au public suisse qui. Le film sort le même jour qu'en France.
La promesse verte, alors vous aviez fait Au nom de la Terre, entre autres, vous avez vu beaucoup dans les documentaires, également Au nom de la Terre, où vous mettez en avant sur la scène la situation dramatique des agriculteurs en France, elle est valable pour des autres pays en Europe. Récemment, les agriculteurs ont beaucoup manifesté, c'est le cas aussi en Suisse, c'est difficile pour eux. Et puis là, vous nous étonnez avec un film de fiction qui nous entraîne avec l'exploitation des forêts primaires, l'huile de palme en Indonésie. La promesse verte avec, entre autres, Alexandra Lamy. Quand est-ce que vous est venue la genèse, l'envie de faire ce film ?
Eh bien, pendant que je tournais mon premier film Au nom de la Terre, j'avais déjà envie de faire un deuxième. Je suis tombé sur une manifestation d'agriculteurs, comme il y a eu ces dernières semaines en Suisse, en France, partout en Europe. Mmh. Et ces agriculteurs manifestaient parce qu'ils avaient été encouragés il y a une trentaine d'années dans la culture de colza, pour faire du gasoil vert, du biodiesel, comme mon père, en fait. Il y a une trentaine d'années. Donc, voilà, les souvenirs sont remontés. Et puis,
c'était émotionnel.
Ouais, et puis, en fait, ils manifestaient devant des raffineries Total parce qu'il y a de l'huile de palme qui allait être importée d'Indonésie, de Malaisie, et ils allaient être les tendons de la farce. En gros, c'est la même chose que les revendications des agriculteurs ces dernières semaines. Mmh. N'importons pas du bout du monde ce qui est produit avec un coût social, environnemental. Bien dégueulasse. alors qu'on sait faire et qu'on a des normes chez nous qu'encore une fois on se fait avoir. Donc ça part de ça.
Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est quand même l'intérêt financier qui prime.
Ah oui, c'est l'économie mondialisée, ouais. C'est ce que ça raconte, ce que le film raconte en fond. Mais je parle d'huile de palme dans le film, on aurait pu parler de soja, de poulet brésilien ou ukrainien. En tout cas, là, c'est de l'huile de palme.
De viande chevaline d'Argentine.
Oui, les importations, en tout cas, de produits qui sont faits vraiment différemment et sans respecter l'environnement, sous couvert, là, d'une belle promesse verte. Mmh. Et c'est en ça que le titre, quand on voit le film, ce titre est... n'engage que ceux qui le croient. Donc, voilà la genèse du film. Et puis, j'ai été grand reporter, documentariste, j'ai pas mal voyagé, j'ai vu les ravages de la déforestation en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Et je crois que je voulais le raconter parce que je suis parrain d'une association, des enfants et des arbres. Mmh. On replante des arbres avec des scolaires chez des agriculteurs, là même où on avait arraché les haines, ou comme chez nous, chez mon père à l'époque, on savait pas ce qu'on faisait, hein. Mais l'arbre est notre meilleur ami. Un créateur d'air, d'eau, de champignons, qui aide la biodiversité.
Oui, avec des ramifications incroyables aussi.
Oui, les mycorhizes, donc les champignons, les vers de terre. Mmh. Et justement, le 21 mars, 6 jours avant la sortie du film, c'est la Journée internationale des forêts, des Nations Unies. Et à cette occasion, là, en France, on fait 380 avant-premières. Et sur chaque ticket d'entrée, 1 € sera reversé à l'association dont je suis le parrain, pour replanter des arbres, justement, pour sensibiliser les enfants. Et pour moi... La promesse verte, je l'ai voulu familiale et qui parle aussi aux plus jeunes. Parce que c'est par l'éducation, c'est par les plus jeunes que la société pourra changer, que la planète pourra aller mieux. En tout cas, je l'espère et je le pense. Je reste un éternel optimiste, même si le film est dur.
Alors, je vous reprends. Je travaille un peu quand même. C'est vous qui teniez le micro. En fait, vous parlez des jeunes. Les jeunes, on sait déjà que... En tout cas, les jeunes qui sont adolescents ou jeunes adultes sont très conscientisés, ils manifestent, ils sont inquiets de ce qu'on leur livre comme héritage, qui est bien entamé. Et puis, pour revenir à votre film, il y a un souci d'authenticité, de véracité. On se croit vraiment en Indonésie, on se doute bien que vu la situation là-bas, vous êtes allé tourner ailleurs.
Je suis allé en repérage en Indonésie, pays dans lequel j'étais allé faire des reportages déjà. Et en mode touriste, j'ai fait quelques images en Indonésie et notamment, j'ai eu la chance de croiser un orang-outan. Donc je l'ai filmé avec mon appareil photo. On était deux avec mon chef opérateur. On a pris beaucoup de références, de photos, mais pour se documenter, parce que ce film, dès le début, on savait qu'on n'allait pas le tourner là-bas. Quoi. Mmh. On allait le tourner en Thaïlande. Pourquoi ? Parce qu'en Thaïlande, les décors se ressemblent beaucoup.
Le
climat ressemble, et enfin, le même. Et nos amis, enfin, les Américains notamment, quand ils veulent de l'exotisme, ils vont beaucoup tourner en Thaïlande. Donc il y a des équipes de cinéma qui sont vraiment compétentes, des comédiens, des figurants. Donc on est allé tout de suite repérer et chercher les décors en Thaïlande. avec une longue préparation là-bas, et on tournait là-bas il y a un an. Donc, et on s'y croit, on se croit en Indonésie. Après, il y, y a la magie du cinéma et quelques effets visuels qui font qu'on rattrape certaines choses.
Et nous, on se croit vraiment en Indonésie. Il y a aussi des séquences qui sont tournées en France, entre autres en Vendée, si je ne me trompe pas. Mais
en Vendée et puis à Paris. Et dans ce souci de vérité, de crédibilité, c'était important pour moi de tourner dans des décors naturels. Donc, à l'autre bout du monde, dans des vrais palmeraies, une forêt primaire, des vraies usines, prisons, un vrai tribunal. On s'y croit, vraiment. Et en France, pareil, jusqu'à aller tourner au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Voilà, je parle beaucoup de diplomatie dans le film. Et pour moi, c'était important d'être dans le bureau du ministre, le vrai, d'être au cœur du réacteur. Et c'est ce qui donne ce côté cinéma du réel, peut-être presque documentaire, et qui trouble les spectateurs. J'ai eu la chance de le montrer dans une soixantaine de cinémas, à peu près 10 000 spectateurs déjà. Et vraiment, les gens sont troublés et sortent peut-être un petit peu différents de la manière dont ils sont rentrés 2 heures plus tard. Et le cinéma peut servir à ça, en fait. En tout cas, mon cinéma, ce cinéma-là, on peut rire dans certains films, on peut se divertir. Et là, on peut éveiller des consciences, en fait. On parlait de jeunesse, on peut parler de citoyenneté. Voilà, qu'est-ce que je fais après avoir vu ce film ? Est-ce que j'ouvre mes placards, je regarde les étiquettes, je balance tout ce qui contient de l'huile de palme, je deviens un consomme acteur, je choisis vraiment, je réfléchis à ce que j'achète, et j'achète pas comme un mouton. C'est en ça que pour moi, là, encore une fois, l'éducation, la jeunesse est vraiment la première cible. Et on est très heureux d'avoir un tampon de l'éducation nationale en France, et qu'il y a un kit pédagogique qui existe, et il y a beaucoup de projections qui vont être destinées aux scolaires, collégiens et lycéens. Et c'est là qu'on aura gagné, je pense.
Et qui sont anticipés avec les enseignants avant de venir voir la projection, bien évidemment. Alors, en ce sens, vous êtes un évident activiste, parce qu'il y a la dimension du message, plus le côté, bien sûr, cinématographique.
Activiste ou artiviste ?
Artiviste.
Oui, enfin, l'art, le cinéma, la littérature et tous les pays où il y a de l'art, même si on ne prétend pas changer le monde, ça peut faire gagner du temps, en fait. Et j'aime bien
ce terme. Ça fait passer des messages.
Ça fait passer des messages, oui, parce que l'émotion, en fait. On a tous cru et on a eu peur que les salles de cinéma ne réouvrent pas au moment du Covid, mais le cinéma est plus puissant que ça. Et quand on est dans cette salle, face à cet écran, avec du son, on est immergé dans une histoire, on pose son téléphone et on est à fond dans le dedans. Et là, on est à fond avec cette maman, Carole, qui est Alexandra Lamy. On est à fond avec elle, on s'identifie à elle et on va vivre toutes les émotions qu'elle va vivre.
Qui est une mère courage.
Qui est une mère courage, mais qui est une héroïne du quotidien, en fait. C'est Madame Tout-le-Monde, et c'est pour ça que j'ai choisi Alexandra Lamy, parce qu'elle est populaire. Et populaire, c'est un mot noble. Pas l'oublier. Et en fait, le spectateur fait l'enquête avec cette maman. C'est-à-dire qu'elle est perdue, elle n'a pas les armes, et bien le spectateur non plus. Mais on se rend compte que pour l'amour pour son enfant, pour plein de raisons, Martin, qui est Félix Moati, elle va se battre et elle va enquêter. Et le spectateur va enquêter et va découvrir toutes les arcanes et les rouages d'une économie mondialisée, faite de lobbying et de diplomatie.
Diplomatie sous la houlette des intérêts à la fois politiques et on peut dire, économiques.
Bien sûr. Les intérêts de chacun, c'est ce que je voulais raconter sur l'hôtel de la planète, de la forêt primaire, jusqu'aux intérêts locaux, en fait. Il y a une séquence où Philippe Torreton dit c'est de l'emploi, ici, en France. Donc Martin, qui est emprisonné, devient une monnaie d'échange entre un pays qui a à nous vendre de son or vert, l'huile de palme, vert, entre guillemets, et nous qui avons à vendre de l'industrie, des satellites, des avions, et plus encore, donc pas si simple.
Donc depuis que vous avez écouté à la fiction, vous avez gardé beaucoup d'intérêt pour la fiction, mais vous gardez toujours votre regard de documentariste.
Oui, puis j'en ai terminé un qui a été diffusé sur France Télévisions fin février, le 27 février, qui s'appelait « Femme de la Terre », où j'ai raconté l'histoire de ma mère agricultrice, de mes grand-mères, arrière-grand-mères, parce qu'elles sont passées d'un statut sans statut, invisible, au prix de longs combats et dans le sillage de combattantes, de pionnières. Elles ont acquis leurs droits, au même titre que les hommes, et puis surtout, elles sont pleinement agricultrices aujourd'hui et actrices de la transition agroécologique. Donc c'était réparer quelque chose, leur rendre hommage. Et c'est important pour moi d'avoir... J'ai 2 jambes, donc d'en avoir une dans les fermes et dans la réalité en faisant du documentaire, qui nourrit également la fiction, en fait. J'amène du cinéma dans mes documentaires et j'amène du documentaire et de la réalité dans mes fictions. Donc je suis assez heureux comme ça.
C'est totalement symbiotique. Pour revenir à la première semaine, Vous avez l'avant-première ce soir ici au cinéma Scala à Genève. Vous êtes présent en Suisse romande pour les rencontres du 7e art. Et la promesse verte, il y a un travail aussi au niveau des caméras. On a des vues aériennes, évidemment. Mais comment vous travaillez au niveau des caméras parce qu'on a l'impression d'être en immersion avec les protagonistes.
Alors, je tourne avec un format cinémascope. Donc, vraiment, on prend pleinement l'écran. On voyage avec des grands plans larges. J'aime valoriser les décors. C'est vraiment mon influence western que mon père m'avait transmise. Les films de Sergio Leone et ses consorts, John Ford. Et ensuite, je suis très proche des comédiens. J'aime beaucoup la longue focale, donc rentrer dans leur tête. Et on est vrai qu'on est très proche d'Alexandra. Qui, en plus, je parlais de Madame Tout le Monde, mais dans la vie, parce qu'elle est allée loin. Elle a accepté de... C'est une maman. Et elle voulait tout de suite ne pas se maquiller, être fatiguée et se montrer vraiment à l'état naturel, brut. Et dans la vie. Et c'est pas rien, hein, ce qu'elle a fait. Hein.
Ça contribue à l'authenticité.
Ah, oui, je pense. Enfin, j'en suis sûr. Mm-hmm. Voilà, pour une comédienne qui accepte ça, c'est pas tous les jours. Enfin, qui veulent. Enfin, ensemble, on l'a défendue. Et je crois qu'elle est très contente du résultat, parce que ça la met dans la vie, justement. Donc,
ouais. Et le choix des comédiens est venu à l'écriture ?
Non. Oui, non. On essaie de pas trop s'attacher à une idée de comédien, parce que s'il n'est pas dispo ou qu'il n'a pas envie de faire le film, après c'est décevant. Mais qu'il y ait un garçon comme Philippe Torreton ou Sofiane Kames qui joue l'attaché de l'ambassade, ça c'est venu à l'écriture et ça a été mon premier choix et j'ai eu la chance qu'ils disent oui tout de suite. Alexandra c'est venu une fois que le scénario était terminé, Félix un peu plus tard parce que c'était pas lui forcément le premier choix, mais parce qu'il y a eu un problème de dispo du premier comédien, mais dès qu'un moment, Félix réalise et écrit, et il est écrit dans la même boîte de prod que moi. Et un matin, j'étais en train de prendre un café à la machine à café, et là, il y a un mec qui rentre dans la prod, et je vois Martin rentrer, alors que c'était Félix. Donc ça s'est fait d'une manière très spontanée, sans. Je l'ai choisi avant qu'il lise le scénario. Il a lu le scénario et il m'a dit : je suis ton Martin. C'est aussi ça, c'est assez étrange, hein, des fois, le casting. Hein. C'est une sensation.
Des dieux indonésiens qui vous ont placé sur le bon chemin.
Ouais, mais je ne le regrette pas du tout, parce qu'il est formidable. Il amène le personnage de Martin loin, loin, loin. On a peur pour lui. Hein.
Et puis les rôles secondaires, vous pouvez en parler.
Oui, beaucoup de rôles secondaires. Pas si secondaires que ça. Sofiane Kames, qui est un comédien formidable, qui est très, très ambivalent dans le film, et qui a une énorme présence. Antoine Bertrand, ce Canadien qu'on voit généralement dans les comédies, mais là, qui est...
Pour vous mettre un petit accent de la belle province, mais là...
Ouais, un baroudeur qui travaille dans une ONG, je ne vous en dis pas plus, mais j'aime bien le côté... on découvre toujours des choses, des pans de la personnalité de chacun, quoi. Est-ce qu'un méchant est méchant ? Est-ce qu'il n'est pas un peu gentil des fois ? Est-ce qu'un gentil est vraiment que gentil ?
Ne pas s'arrêter aux apparences.
Non, pas s'arrêter aux apparences. Julie Chen, qui avait joué dans le premier Astérix dans l'Astérix de Guillaume Canet, son premier film, et là, elle a fait un super rôle de composition où elle a appris des dialogues en indonésien. Elle est française, d'origine chinoise, qui est l'activiste, Nila. Et ensuite, j'aime beaucoup ce rôle, Adam, qui joue Peter, l'Australien, qui est un garçon, c'était son premier film. Il est très très touchant, très très doué. C'est le pendant.
Très crédible.
Très crédible. Pendant de Martin en prison. Et... Très touchant ce garçon.
Oui, les scènes dans les geôles indonésiennes, c'est vraiment éprouvant aussi pour le public. Hein. C'est d'une extrême violence. On se doute que vous êtes documenté énormément.
Oui, je ne suis pas allé en prison, moi.
Non, j'espère pour vous.
Mais je n'irai pas en Indonésie, j'ai pas envie d'y aller maintenant. On s'est beaucoup documenté. Documentaire, photos, beaucoup, gros travail avec mon chef décorateur.
Question helvétique, puisque vous êtes à Genève, vous êtes en Suisse romande, vous connaissez la mésaventure de Bruno Manzer, notre Balois.
Bien sûr, ça a été en découvrant beaucoup de documentaires, on a lu beaucoup de choses sur Bruno Manzer, ouais, donc on s'est beaucoup documenté, bien sûr.
Et c'était son combat, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. C'était Pénane, avec les tribus qui sont plus reculées et plus d'un état plus primitif. Là, moi, j'ai parlé des Dayaks qui peuplent principalement l'île de Bornéo, mais qui sont vraiment dans la vie occidentalisée, on va dire. Mais oui, c'était dans les années 80-85, je crois. Il a disparu.
Et entre-temps, on coupe le territoire, les arbres.
Le combat de Bruno Manzer, il y a... 35-40 ans et aujourd'hui, malheureusement, Bornéo a perdu une grande partie de sa forêt primaire. Et oui, c'est loin, mais en fait, il y a beaucoup d'Occidentaux et d'Européens qui connaissent l'Indonésie et qui sont sensibles à tous ces combats-là. Et on parle souvent que de la forêt qui disparaît, que les orang-outans qui disparaissent, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est bien pire que ça, en fait. Donc, et ça nous concerne. C'est, Ça fait partie de nos poumons, en fait, hein, cette forêt primaire. Donc,
Et là, vous mentionnez le cas indonésien, mais c'est le cas aussi en Afrique, c'est le cas dans de nombreux pays.
En Afrique, en Amérique du Sud, et partout, même les forêts d'Europe centrale, qui servent à faire des meubles IKEA. Le problème, il est commun, donc c'est à nous tous de nous réveiller sur nos principes de consommation, quoi. Avoir tout de suite, tout le temps, pas cher, à un moment donné, il y a un coût, quelque part. Et là, c'est la planète qui le paie, il y a un coût humain, et jusqu'où on pourra aller comme ça, pas bien loin, si on ne réagit pas tout de suite.
Edouard Bergeon, vous avez donc aussi beaucoup traité la situation des agriculteurs, et vous êtes d'ailleurs fondateur de Au nom de la terre, qui défend la durabilité, le monde rural.
Oui, moi, je suis plutôt là pour créer des ponts, plutôt que diviser, parce qu'on voit aujourd'hui que il y a les centres urbains et la ruralité.
Et que le dialogue est rompu,
et il y a beaucoup de clichés, parce qu'il y a une déconnexion. Il y a une agriculture qui est souvent très fantasmée depuis les centres-villes par rapport à la réelle situation. Et c'est aussi pour ça que les agriculteurs sont sortis manifester il y a quelques semaines, parce que voilà, ils se sentent déconsidérés, alors qu'ils sont allés remontrer là. On vous nourrit 3 fois par jour, donc aidez-nous, aimez-nous. On veut bien être encore plus vert que vert, faire encore plus propre, mais tout ça, ça a un coût. Donc c'est pas à nous de le supporter, c'est à l'agro-business, à la grande distribution, et peut-être aux politiques aussi, si on veut aussi garantir une nourriture de qualité à ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de bien manger. Mais on a tous les moyens, par contre, de cuisiner et de se rééduquer au goût. Mais ça, il faut le vouloir. Mais il faut le faire aussi chez les plus jeunes, parce que j'ai pas le temps. Moi, je travaille beaucoup, mais j'ai le temps de cuisiner, parce que j'ai décidé de cuisiner et de pas manger d'huile de palme. Mais après, je suis pas là pour dire quoi faire, hein, et de culpabiliser les gens, chacun. Mais voilà, collectivement, on peut quand même faire changer beaucoup de choses. Ne plus acheter certains produits, en acheter d'autres.
Et de manger localement, si aussi l'agroalimentaire fait moins de bénéfices.
Ouais, sûrement.
Parce qu'il y a des marges énormes.
Ouais, bien sûr, mais déjà manger suisse en Suisse, manger français en France, tout simplement, de saison, en supprimant les cuisines dans les apparts et en faisant que de la livraison qu'on va y arriver. Et c'est une certaine jeunesse qui fait ça, mais à un moment donné, il faut aussi faut l'éduquer, cette jeunesse.
Rapidement, puisqu'on doit bientôt vous quitter.
Il y a une séance.
Oui, je me dépêche. La bande-son, vous pouvez juste dire comment vous avez travaillé la musique du film.
Thomas D'Apello, qui est le compositeur avec qui je travaille depuis 15 ans, qui avait déjà fait Au nom de la terre, qui est formidable et qui a lu le scénario très vite. Et très vite, on a décidé de m'a proposé de se perfectionner dans des instruments indonésiens, notamment des gamelans. C'est des percussions, tout un tas de percussions assez dingues.
Avec des sonorités incroyables.
Des sonorités incroyables qui vous met dans une atmosphère très, très forêt primaire, très sauvage, qui vous tient en haleine. Et il y a 1h20 de musique sur 2h, il y en a beaucoup, un peu comme un film américain, mais mixé à différents niveaux. Donc la musique vous soutient, ou elle est devant, et en tout cas, c'est un personnage fort du film, et ce qui contribue à donner un rythme thriller, et à mettre sous tension le spectateur, et notamment à vibrer. Donc c'est ça qui était important pour nous, et je suis très très heureux de la musique qu'il a fait, et vraiment, c'est un boulot fabuleux. C'est un film qui se voit au cinéma, tous les films se voient au cinéma, mais entre l'image et la bande-son...
Il y a un côté romanesque.
Exact, épique, ouais, romanesque. Épique, oui. C'est ce que je voulais et je crois qu'on a réussi ça.
Voilà, c'est réussi.
Merci.
Alors avant de vous quitter, je suis sûr que le public ce soir sera enthousiaste. Un petit mot rapide sur Amour Vache, où vous suivez en fait un cheptel de bovins qui doivent partir à l'abattoir. Et on voit une scène déchirante où l'agriculteur en fait dit combien il aime chacune de ses vaches. C'est terrible.
En fait, après Au nom de la terre, j'ai eu des centaines de messages, et merci à tous ceux qui m'ont écrit, mais pas simple de lire tout, mais un message sur les réseaux m'a alerté plus que les autres. Et chez les agriculteurs du Béarn, dans le sud de la France, le troupeau allait être abattu à cause d'un cas de tuberculose. Une vache qui était malade, et tout le troupeau allait partir. Et là, c'était tellement dur que je suis descendu avec ma caméra, alors que je n'avais pas le droit de filmer. Mais je l'ai fait quand même, et puis j'ai suivi l'histoire, et puis je l'ai suivi sur 3 ans, et j'en ai fait un documentaire pour France 5. Et c'était assez déchirant, et je suis resté un petit peu dans cette famille. Je suis allé les voir sur 3 ans, et ça raconte aussi l'amour que les éleveurs ont pour leurs animaux.
Qui sont des membres de leur famille.
Exactement. Et que des fois, les circulaires ou l'État ou les normes font qu'on enlève l'humanité, et faire attention, parce qu'il peut y avoir d'autres drames après. Les animaux partent, mais il peut aussi y avoir d'autres drames. Donc c'est important pour moi de mettre un éclairage, encore une fois, sur ces éleveurs. Mais voilà, avec du positif à la fin, avec la lumière qui revient, avec la passion qui est toujours là, toujours une envie de positif et sans angélisme de raconter qu'il y a des choses qui peuvent aller mieux et qu'on est aussi pas mal à la campagne et en étant agriculteur.
Avec beaucoup d'émotions, c'est vraiment puissant. Merci Edouard.
Merci à vous.
Bergeon. Bon succès.
Merci à vous.
Pour Verte et pour les autres films qui vont sortir.
Ouais,
merci.
Merci à vous.